Seigneur Jésus, ne t'aimerions-nous pas ? Voilà une question en effet qui touche bien nos cœurs et nos consciences. Ce matin, notre Dieu nous a rappelé les merveilles qu'il nous accorde. Premièrement, entrer dans son sanctuaire, le connaître comme le Dieu de paix, le Dieu d'amour, y trouver Jésus, le seul fondement de l'Église, y trouver notre Seigneur, ayant accompli l'œuvre de la rédemption, couronné de gloire et d'honneur, que de merveilles. Mardi dernier, nous avons été interpellés par la demande de Salomon. Donne à ton serviteur un cœur qui écoute. Et nous avons été occupés par plusieurs versets, plusieurs passages de l'importance de ce cœur qui écoute. Mais alors, par analogie et contraste, propose que nous considérions l'histoire de Joas. Nous commençons en 2 Chroniques 22, verset 11. 2 Chroniques 22, 11. Mais Josabath, fille du roi, prit Joas, fils d'Akazia, et le déroba du milieu des fils des rois qu'on mettait à mort, et le mit, lui et sa nourrice, dans la chambre à coucher. Ainsi Josabath, fille du roi Joram, femme de Joïada le sacrificateur, le cacha devant Athalie, Athalie qui était donc la femme du père de Josabath, le cacha devant Athalie, car elle était sœur d'Akazia. Et Athalie ne le mit pas à mort. Il fut caché 6 ans auprès d'eux, dans la maison de Dieu. Athalie régna sur le pays. Chapitre 23, verset 13. Le roi se tenait sur son estrade à l'entrée. Et les chefs et les trompettes étaient auprès du roi. Et tout le peuple du pays se réjouissait et sonnait des trompettes. Et les chantres étaient là avec des instruments de musique, et ceux qui enseignaient à louer Dieu. Fin du verset 14. Le sacrificateur dit : ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel. De Chroniques 24. Joas était âgé de 7 ans lorsqu'il commença de régner. Il régna 40 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Tsibia de Beersheba. Donc une des femmes d'Akazia. Et Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tous les jours de Joïada le sacrificateur. Tous les jours de Joïada le sacrificateur. Verset 4, il arriva après cela, on ne sait pas combien d'années après. Joas eut à cœur de restaurer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs et les lévites et leur dit : allez par les villes de Juda, recueillez de l'argent de tout Israël pour réparer la maison de votre Dieu d'année en année. Hâtez cette affaire. Mais les Lévites ne la hâtèrent point. Et le roi appela Jéhuada, le chef. Jéhuada, le chef, donc celui dont qu'on a vu au chapitre 22, au chapitre 23, souverain sacrificateur. Et le roi appela Jéhuada, le chef, et lui dit : pourquoi n'as-tu pas exigé des Lévites qu'il t'apporte de Juda et de Jérusalem le tribut de Moïse, serviteur de l'Éternel, imposée à la congrégation d'Israël pour l'attente du témoignage. Car Athalie, cette méchante femme, et ses fils avaient dévasté la maison de Dieu. Et toutes les choses saintes de la maison de l'Éternel, ils les avaient aussi employées pour les Baals. Et le roi commanda, on mit un coffre, on le mit à la porte de la maison de l'Éternel en dehors. Et on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apporte à l'Éternel le tribut de Moïse, serviteur de Dieu imposé à Israël dans le désert. Le tribut de Moïse, serviteur de Dieu imposé à Israël dans le désert. On regardera ce que c'est. Et tous les princes et tout le peuple s'en réjouirent. Ils apportèrent l'argent et le jetèrent dans le coffre jusqu'à ce qu'on ait fini. Il arriva que lorsque c'était le temps d'apporter le coffre au contrôle du roi par la main des Lévites, et qu'on voyait qu'il y avait dedans beaucoup d'argent, alors le secrétaire du roi, le scribe, celui qui note tout, et l'officier du principal sacrificateur venaient et vidaient le coffre. Et ils le reportaient et le remettaient à sa place, ils faisaient ainsi jour après jour, et on recueillit de l'argent en abondance. Et le roi et Jéhoïada le donnaient à ceux qui faisaient l'ouvrage du service de la maison de l'Éternel. Et ceux-ci prenaient à gage des tailleurs de pierre et des charpentiers pour restaurer la maison de l'Éternel, et aussi des ouvriers en fer et en airain pour réparer la maison de l'Éternel. Et ceux qui faisaient l'ouvrage travaillèrent, et l'œuvre de restauration se fit par leurs moyens. Ils rétablirent la maison de Dieu en son état et la consolidèrent. Et quand ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Jéhoïada le reste de l'argent, et on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour des holocaustes, et des coupes et des ustensiles d'or et d'argent. Et on offrit des holocaustes dans la maison de l'Éternel continuellement tous les jours de Jéhoïada. Et Jéhoïada devint vieux et rassasié de jours, il mourut. Il était âgé de 130 ans quand il mourut, et on l'enterra dans la ville de David avec les rois. Car il avait fait du bien en Israël, et du bien pour Dieu, et du bien pour la maison de Dieu. Ce verset 16 rappelle Méphibosheth, le dernier verset d'Esther. Joas est donc l'objet des soins tout particuliers et remarquables de la part de sa tante Jéhoshabat, fille du roi, et Joram, demi-sœur d'Akasia, et elle prend Joas et sa nourrice dans la chambre à coucher, c'est-à-dire dans une des chambres du temple. Il est certain que, vu l'état du temple à l'époque, personne n'allait mettre son nez, personne n'allait dans le temple, sinon ceux qui sont mentionnés au verset 23 que Jéhoïada rassemble et qui maintenait le service de Dieu dans le temple, alors que Athalie, on l'a lu, cette méchante femme, 24-7, avait dévasté la maison de Dieu et avait utilisé les choses saintes de la maison de l'Éternel et employées pour Baal. Joas donc, c'est pas évident de garder un enfant jusqu'à 7 ans. Donc il avait un an quand il a été caché, resté 6 ans dans un lieu confiné, la chambre à coucher, les chambres des sacrificateurs, mais certainement au milieu quand même de tous ces coureurs, ces capitaines, ceux dont il est parlé au chapitre 23, verset 6, et les autres sacrificateurs que Jéhoïada rassemble après. Cela nous montre un grand courage, un grand acte de foi. Jéhoshabat savait ce qu'elle faisait. Elle connaissait les décrets de Dieu quant à la perpétuité de la maison de David, les promesses que Dieu a faites à David à cause de sa fidélité. Son acte nous rappelle celui de la fille du Pharaon qui sauve Moïse, sauvé des eaux. Moïse, c'est son nom, sauvé des eaux. Dans son coffret de joie et de poids, de jonc, de poids, de bitume. Et qui l'adopte, fils de la fille du Pharaon. Avec la grosse différence que Jéhoshabat agit avec grande foi, alors que la fille du Pharaon était l'objet, l'instrument de la providence de Dieu. Elle ne connaissait pas les voies de Dieu et elle ne connaissait pas la portée de ces soins qu'elle prend envers Moïse. La foi de Jéhoiada brille au chapitre 23. Et dans ce que nous avons lu, on voit que nous avons lu au verset 13 ce qui était préparé. Il y avait les trompettes, il y avait les chantres, les instruments de musique, ceux qui enseignaient à louer Dieu. Peut-être regardons en 2 Rois 12, il se peut qu'il y ait d'autres détails quant à cette insistance liée à ce qui avait été commandé à Moïse et mise en place par David. Bon, si le 2 Rois 11, verset 10. Entre autres, il y en a un autre aussi, où il dit que selon ce que David. Alors, 2 Rois 11, verset 10. Et le sacrificateur donna au chef de centaine les lances et les boucliers qui avaient appartenu au roi David, qui était dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que la foi de Jéhoiada le fait remonter au commencement, ce qui était au commencement. Bon. Il me semble que, bon, c'est dit quelque part que selon le commandement de l'Éternel et selon ce que David avait préposé sur la louange et les instruments de musique qui étaient préparés. Nous, puisque nous avons cherché en 2 Rois, nous regardons en 2 Rois 12. 2 Rois 12, verset 4. Joas dit au sacrificateur, « Tout l'argent des choses saintes qui est apporté dans la maison de l'Éternel, l'argent de tout homme qui passe par le dénombrement, l'argent des âmes selon l'estimation de chacun, tout argent qui monte au cœur de chacun d'apporter dans la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent, chacun de la part des gens de sa connaissance, et qu'ils réparent les brèches. » Nous lisons encore, toujours en 2 Rois 12, milieu du verset 7, « Pourquoi maintenant, ne prenez pas l'argent de vos connaissances, mais vous le donnerez pour les brèches de la maison. » Et verset 8, « Et les sacrificateurs consentirent à ne plus prendre d'argent de la part du peuple. » Et que seulement cet argent soit utilisé pour réparer les brèches de la maison. Il y a donc cet argent que, chose remarquable, c'est que Joas remonte aux enseignements que Moïse avait donnés, le tribut de Moïse, serviteur de l'Éternel, dans le désert, imposé pour la tente d'assignation. Alors nous regardons en Exode 35, et il est très joli de voir que à la fois Jéhoiada et Joas remontent donc à ce qui a été fait au commencement, soit David pour les instruments de musique et pour les armes, les boucliers, les lances, et puis pour le tribut. Exode 35, verset 4, Moïse parla à toute l'assemblée des fils d'Israël en disant, voici ce que l'Éternel a commandé. Et donc bien ce que Moïse avait commandé à Israël dans le désert et pour l'édification de la tente du témoignage. Voici ce que l'Éternel a commandé, disant, prenez de ce qui est à vous une offrande pour l'Éternel. Que tout homme qui a un esprit libéral apporte l'offrande élevée de l'Éternel, de l'or, de l'argent, de l'airain, du bleu, de la pourpre, de l'écarlate, du fin coton, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de tesson, du bois de sittim, de l'huile, des aromates, de l'encens, des pierres d'onyx, etc. jusqu'au verset 9. Athalie a laissé la maison de Dieu dans un tel désordre que Joas, qui connaissait très bien le temple, il y est resté 6 ans, qui allait et venait, qui voyait combien ce temple était dégradé, qui était enseigné quant à la crainte de l'Éternel par Jehoiada, le sacrificateur, et par sa tante Jéhoshabbat, souffrait, enseigné bien sûr par sa tante et son oncle, en voyant l'état de cette maison. Et la restauration de cette maison de l'Éternel, laissée dans un piteux état par Athalie, cette méchante femme, il la ramène à l'élaboration de la tente d'assignation par Moïse au désert. C'était tellement délabré que c'est comme s'il fallait tout recommencer. Non pas quant au temple, mais Moïse dans le désert pour établir, construire la maison, la tente d'assignation. Ce qui était attribué à chacun, dans le livre des Nombres, alors où est-ce ? Nombre 7. Il arriva le jour où Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, qu'il lui oint et sanctifié avec tous les ustensiles, et l'autel, et qu'il lui oint et sanctifié. Verset 2. Alors les princes d'Israël, chefs de leur maison de père, princes des tribus qui avaient été préposés sur ceux qui furent dénombrés, présentèrent leur offrande. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel, 6 chariots couverts et 12 bœufs, un chariot pour 2 princes, un bœuf pour 1 prince, ils présentèrent devant le tabernacle, et ces chariots n'étaient pas vides. Et le verset 10 et 11, on voit le verset 12, on voit tout ce qui était dans les chariots et toute l'offrande qui est décrite en nombre 7, versets 13 et 17, et qui est répétée 12 fois pour chacun des princes des fils d'Israël. De Chronique 24, Joas remonte donc à ce temps-là, et il demande que le tribut que Moïse avait imposé, avait commandé, soit apporté. Si l'on reprend 2 Rois 12, on voit qu'il y avait en plus 2 Rois 12, oui. On voit qu'il y avait en plus l'argent, verset 2 Rois 12, 4. L'argent des choses saintes qui sera apporté dans la maison de l'Éternel, c'est donc Exode 35, hein, on vient de le voir. En plus, en Exode 12, milieu du verset 4. L'argent de tout homme qui passe par le dénombrement, c'est Exode 30. Et puis l'argent des âmes selon l'estimation de chacun, c'est-à-dire lorsque le premier-né de chaque famille devait être acheté. Et il y a donc une somme d'argent qui était donnée, qui était apportée, qui était donnée à l'Éternel pour racheter le premier-né. Les premiers-nés sont à moi. Et puis en 2 Rois 12, verset... Fin du verset 4, « Tout argent qui monte au cœur de chacun d'apporter dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire le don volontaire. » Joas n'invente rien, il ne prévoit pas d'autres tribus, mais il revient à ce que l'Éternel avait donc demandé en son temps. Il avait bien dit « Hâtez-vous ». Et puis, On vient de lire, il ne se hâtèrent point. Et pourquoi ne se hâtèrent-ils point, les Lévites? Nous restons en 2 Rois 12, verset 17. Maintenant, ne prenez pas d'argent de vos connaissances, mais vous le donnerez pour les brèches de la maison. Verset 8, les sacrificateurs consentirent à ne plus prendre d'argent de la part du peuple. Et cet argent servirait seulement à réparer les brèches de la maison. Voilà ce que sont nos cœurs. Cet argent revenait en effet à l'entretien des Lévites, les Lévites d'abord, et puis les Lévites en donnaient la dîme aux sacrificateurs. Et on retrouve la tendance de chacun de nos cœurs, c'est-à-dire de garder l'argent pour nous, au lieu de le donner pour réparer les brèches de la maison de l'Éternel. Alors Joas manifeste encore sa fidélité, son attachement au temple de Dieu. Il connaissait bien, il avait été élevé, il avait été protégé, mis à part, mis à l'abri. Et même il gourmande alors son protecteur et le souverain sacrificateur, Jéhoiada. Pourquoi n'avez-vous pas fait ce qui avait été demandé? Alors le coffre. Et on voit qu'il y a largement verset 2 Chroniques 24, fin du verset 11, on recueillit de l'argent en abondance. Et la confiance règne. Le roi et Jéhoiada donnaient à ceux qui faisaient l'ouvrage, ceux qui faisaient l'ouvrage aux artisans. Ils faisaient l'ouvrage, ils travaillèrent, ils rétablirent la maison de Dieu. Il y a donc une entière confiance en deux rois. On voit qu'ils ne comptaient pas. Ils ne comptaient pas l'argent aux artisans, ils ne comptaient pas l'argent aux tous ceux qui travaillaient pour restaurer la maison de Dieu. Nous continuons, il reste de l'argent. Alors, en 2 Chroniques 24, milieu du verset 14, ils en firent, on en fit des ustensiles pour la maison de Dieu, que Athalie avait tout emporté, avait tout utilisé pour Baal. Et ce n'est pas en 2 Chroniques, c'est donc en 2 Rois que l'on voit que lorsque Joas a été fait roi, eh bien, le peuple a démoli les maisons de Baal et tout ce qu'il y avait dedans. Et il tua le chef des Baal dans le temple de Baal, le sacrificateur de Baal dans le temple de Baal. Ce doit donc être 2 Rois 11. Mais je fais remarquer qu'ils font des ustensiles pour la maison, pour le service, pour les holocaustes, des coupes, donc il y avait les bassins pour recevoir le sang, il y avait les coupes pour apporter l'encens, les coupes et les libations de vin, des ustensiles d'or et d'argent. Et on offrit des holocaustes dans la maison de l'Éternel continuellement, tous les jours de Jéhoiada. Jéhoiada rassasié de jour, est honoré, on l'enterre dans la ville de David avec les rois. Il avait fait du bien en Israël et pour Dieu et pour sa maison. En contraste avec le dernier verset de 2 Chroniques 23 où nous lisons, 2 Chroniques 23, 21, tout le peuple du pays se réjouit. Et la ville fut tranquille, ils avaient mis à mort Athalie par l'épée. D'une part, la paix, la tranquillité, Athalie est morte, et puis la reconnaissance en 2 Chroniques 24, 16 apportée à Jéhoiada. Il avait fait du bien pour Israël, pour Dieu et pour sa maison. Joli témoignage, beau travail de Joas, initiative de Joas. On aimerait que l'histoire s'arrête là. Une chose particulière et étonnante pour nous, Dieu a ses voies et ses buts, c'est que, alors que les chroniques ne mentionnent aucun manquement de Salomon, et pourtant, début de l'idolâtrie profonde, très grave, c'est Salomon qui a établi tous ces au lieu, et ses achères pour chacune de ses femmes. Il avait 300 femmes et 700 concubines. Profonde démesure. Profond écart. Et une profonde idolâtrie. Les chroniques ne mentionnent rien sur cette profonde déviation, si le mot est assez fort, concernant Salomon. Parce que les chroniques, qui présentent donc l'histoire des rois de Juda, présentent ce côté, selon Dieu, comment Dieu a utilisé les rois de Juda pour sa gloire. Et Salomon doit être, et le type dans l'Ancien Testament, d'un plus grand que lui, le roi de gloire, le Messie pendant le millénium. Donc David, qui établit le royaume en jugement, par le jour du Seigneur, et puis Salomon, qui est alors le royaume de justice et de paix, Ésaïe 11, et les chroniques s'arrêtent là. Alors que le livre des rois, premier livre des rois, donne avec détail justement tous ces profonds égarements, pas quel terme il faut utiliser, déviation, idolâtrie profonde de Salomon. Et le livre des rois ne mentionne pas l'écart de Joas, alors que le livre des chroniques le fait. Pourquoi l'écart de Joas est-il mentionné en chronique et pas dans les rois ? Peut-être les rois pour mentionner la restauration du culte de l'Éternel par Joas, en opposition à l'idolâtrie de Joram, d'Akazia, de tous ces rois d'Israël, de tous ces rois de Juda qui s'étaient joints, qui s'étaient associés, qui s'étaient liés de famille avec les rois d'Israël. Ah, voilà quand même un roi Joas qui vient rétablir le culte de Dieu. Et ce que nous venons de lire de Roi 12 et de Chronique 24 montre bien qu'en effet c'est un contraste saisissant. Et on aimerait en effet s'arrêter au livre des rois. Mais voilà que les livres des chroniques nous étreint. Ce récit qui suit nous étreint parce qu'il démontre ce qui est dans nos cœurs. Il démontre comment, étant privilégié, de façon peut-être encore plus grande que Joas, nous avons rappelé ce matin le privilège que nous avons, nous, êtres de néant, pécheurs par nature. Dans l'iniquité, ma mère m'a conçu, c'est-à-dire le péché original, transmis de parent à parent, de parent à enfant. Eh bien, de dessus le fumier, il élève les pauvres. Joas. Et que d'ingratitude. Que d'ingratitude. Cette ingratitude de la part du peuple d'Israël. Le livre des juges nous le montre, les derniers chapitres qui ne sont pas chronologiques dans le livre des juges nous montrent combien la dépravation morale, la dépravation spirituelle du culte de l'Éternel était grande. Et puis les rois, bien signaler, les rois de Juda qui s'étaient joints au roi d'Israël et de famille, et puis ils se rendent visite les uns les autres, et puis ils vont céder l'un l'autre pour faire la guerre à Ramoth de Galaad, etc. Que d'ingratitude. Les épîtres de Paul, deuxième épître à Timothée. De Pierre, deuxième épître de Pierre. De Jean, deux et trois Jean. Épître de Jude, les Apocalypse 2 et 3, nous montrent comment l'Église, l'Assemblée, la chrétienté professante, la chrétienté en général, a répondu à toutes ces immenses grâces que le Dieu, par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ, a répandu sur les hommes. Pour arriver à dernière sentence d'Apocalypse 3, les choses qui sont, je vais te vomir de ma bouche. Je vais te vomir de ma bouche. Tu es ni tiède, ni tu es ni froid, ni bouillant, tu es tiède, alors je vais te vomir de ma bouche. Ça, c'est le côté collectif. L'indifférence, l'ingratitude collective. Mais l'ingratitude personnelle. Démas m'a abandonné, ayant aimé le présent siècle mauvais. Alexandre a montré envers moi beaucoup de méchanceté. De Timothée, tous ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi. Dans ma dernière défense, personne n'a été avec moi. Que d'ingratitude nous manifestons envers notre Dieu et Père, notre Père en Jésus-Christ. Que de murmures, d'insatisfaction. On ne les dit pas, mais ce sont des pensées qui courent dans la tête et que Dieu nous aide à les discerner d'abord, ces pensées, et à les rejeter. Pour revenir à ce que demande le psalmiste, que ferais-je ? Alors que rendrai-je à Dieu pour tous les biens qu'il m'a faits ? Je prendrai la coupe du salut. Psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ceci pour dire que ce paragraphe donc, que nous allons lire ensemble dans 2 Chroniques 24, nous étreint profondément. Et là, comme un sérieux avertissement que nous ne pouvons pas négliger. Alors nous lisons de Chroniques 24, verset 17. Et après la mort de Jéhoïada, les chefs de Juda vinrent et s'inclinèrent devant le roi. Pourtant, ces chefs, on les a vus au chapitre 23, et tout le peuple qui acclame le roi et ils soignent le roi, vive le roi. Et voilà que les chefs de Juda vinrent et s'inclinèrent devant le roi. Alors le roi les écouta. Nous avons au moins deux autres exemples, certainement d'autres. Roboam, qui prend conseil des anciens après la mort de Salomon. Et le conseil des anciens est bon, écoute le peuple. La main de Salomon a été en effet très forte sur le peuple, très très forte. Il faut quand même tenir compte des difficultés que le peuple rencontre et il faut adoucir un peu ses mesures et ses tribus. Et puis Jéroboam écoute les jeunes et il dit, Salomon vous a appuyé, vous a demandé, a imposé un règne avec son petit doigt. Et moi je le ferai avec le bras et la main. Et Roboam écouta les jeunes gens, c'est-à-dire ceux de son âge. Sédécias, qui est un homme faible. Sédécias, homme faible, il a régné longtemps pourtant. Eh bien, il écoutait les princes, il avait peur des princes. Que de fois, dans les rois, dans les chroniques, en Ésaïe, en Jérémie, on voit que Sédécias avait peur. Un verset en Jérémie. Alors, c'est Sédécias qui demande conseil à Jérémie. Aïe. Au verset 19, le roi Sédécias dit à Jérémie, « Je crains les Juifs, j'ai peur qu'on me livre, j'ai peur qu'on me maltraite. » Allez, verset 19, ben c'est ce que je viens de lire. Oui, chapitre 38, c'est ce que le verset que j'ai lu. Et au verset, disons que tu as été entraîné par... Oh, bah tiens, j'aurais pas dit... Verset 20, écoute, c'est pas ça. Ah non, alors c'est milieu du verset 22. Voilà le verset que je cherchais, excusez-moi pour la... Alors, Jérémie 38, oui. Alors, au verset 22, tes familiers t'ont entraîné, bien sûr, c'est court, tes familiers t'ont entraîné, ils ont prévalu sur toi. Voilà le verset que je cherchais. Tes familiers t'ont entraîné, ils ont prévalu sur toi, tes pieds se sont enfoncés dans le bourbier, ils ont glissé en arrière, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Alors, nous revenons à Joas. Au chapitre 24, verset 18. Le roi les écouta. Ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et servirent les Achères et les idoles. Est-ce possible ? Et il y eut de la colère contre Juda et contre Jérusalem, parce qu'ils s'étaient rendus coupables en cela. Et l'Éternel envoya parmi eux, pour les ramener à lui, des prophètes qui témoignèrent contre eux, mais ils n'écoutèrent point. Et l'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils de Jéhoiada, le sacrificateur. Et il se tint debout au milieu du peuple et leur dit, « Ainsi dit Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel ? Vous ne réussirez point, car vous avez abandonné l'Éternel, il vous abandonnera aussi. » Phrase de Josué en Josué 24. Ils conspirèrent contre lui, ils conspirèrent contre Zacharie, ils le lapidèrent avec des pierres par... l'ordre du roi et où ? Dans le parvis de la maison de l'Éternel. Et le roi Joas ne se souvint pas de la bonté dont Jéhoiada, père de Zacharie, avait usé envers lui. Il tua son fils. Et comme il mourait, Zacharie dit que l'Éternel regarde et redemande. On a bien lu tout à l'heure, au début, en 2 Chroniques 23, que le sacrificateur avait dit, fin du verset 14, « Ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel. » Et voilà que par ordre du roi, on lapide Zacharie et on le lapide dans le parvis de la maison de l'Éternel. Rappelons-nous ce que nous avions vu il y a peu de temps sur les fils des prophètes, que nous... mettons en parallèle avec Joas. Et de nouveau, nous nous adressons à vous qui nous suivez. Élevés sur les bancs du local, élevés dans des familles chrétiennes, vous appréciez les réunions, vous suivez les réunions fidèlement. Vous êtes attachés à tout ce qui sait être, que vous savez être bon, pour le Dieu, pour notre Seigneur, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il arrive un moment de mise à l'épreuve. Par deux fois, on a lu 2 Chroniques 24, fin du verset 2, « Tous les jours de Jéhoiada le sacrificateur. » 2 Chroniques 24, fin du verset 14, « Tous les jours de Jéhoiada. » Verset 17, « Après la mort de Jéhoiada. » Il arrive un moment de mise à l'épreuve. On ne doute pas de la sincérité de Joas dans tous ces beaux versets, magnifique œuvre pour le rétablissement de la maison. Elle a été achevée, elle a été, de Chroniques 24, 13, ils établirent la maison de Dieu en son état, ils la consolidèrent. Est-ce que cette forme chrétienne suffit? On en avait déjà bien parlé avec les fils des prophètes et j'y reviens encore un peu. Nous allons sortir dans la cour tout à l'heure, si le Seigneur n'est pas venu d'ici là. Et puis on va dire, ah ben tiens, c'était rudement intéressant, tiens, voilà, tiens, ça c'est un récit intéressant, ça nous a bien interpellés, il a très bien parlé. Ah ça c'était bien. Ah au fait... quel était le sujet cet après-midi ? Oh. Ah ben écoutez, il faut que je réfléchisse, j'en sais plus. peut-être Joas, qui a écouté Jéhoïada, qui se plaisait à écouter Jéhoïada, à suivre ses conseils. Jéhoïada n'est plus là. Il écouta ceux de son âge. Et quelle responsabilité! Quelle responsabilité pour les chefs de Juda. Matthieu 18, si l'on met un trébuchet, si l'on met une pierre d'achoppement devant un de ses enfants, il serait préférable qu'on lui mette au cou une meule d'âne et qu'on le noie dans la mer. Les chefs de Juda, qui pourtant avaient pris position et qui s'étaient bien démarqués contre Athalie, et pour rétablir et le culte et la maison de l'Éternel. Quelle responsabilité pour les anciens, pour les plus âgés, disons. Quelle responsabilité pour vous, jeunes gens, jeunes femmes. Quand c'est ceux qui vous ont enseigné, parents, grands-parents, ne seront plus là, que ferons-vous? Que ferez-vous? Si vous êtes contentés de cette forme qui est bonne, de l'enseignement de vos parents, c'est très bien. Si vous en êtes contenté, si vous n'avez pas recherché pour vous-même cette relation avec Dieu, il arrive un moment où, alors, vous allez écouter qui? Ceux qui vont dire, écoutez, allons voir ailleurs. Si vous savez ce qui se passe ailleurs, c'est tellement mieux que tout ce qui se passe là. C'est tellement mieux quand l'homme intervient pour affermir, rehausser, renouveler, rendre plus commode et plus facile et plus attrayant les enseignements de la parole. C'est tellement mieux. C'est tellement mieux ailleurs. Qu'allez-vous faire quand vous serez, dans quelques années, lorsque vous serez laissé à votre propre responsabilité, quand vous aurez quitté la maison familiale? Mais responsabilité des parents, de bien guider les enfants, de ne pas non plus les couconner, que les enfants ne soient pas élevés dans les jupes ou les pantalons de leur mère ou de leur père, mais que toute sagesse, chaque chose à sa place. Et nous pensons beaucoup à vous, parents, qui élevez les adolescents avec toutes les questions qui se posent, tous les moyens modernes, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on entend. Quelle sagesse il vous faut pour élever vos enfants, mais leur laissant une certaine liberté, responsabilité personnelle pour qu'ils développent leur foi personnelle. Loin de moi d'accuser Jéhoïada et Jéhoshabbat quant à l'éducation qu'ils ont donnée à Joas. Au contraire, la parole montre bien de rois et de chroniques combien ils ont été fidèles, et Jéhoïada honoré, mis dans le sépulcre des rois. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais l'enseignement est là. Il les écouta, et c'est l'apostasie. Tout ce qu'il avait renversé, il leur établit, les idoles et les jachères, les achères et les idoles. Et voilà, et la maison de Dieu est abandonnée. Verset 18, ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, ils abandonnèrent le Dieu de leur père, ils servirent les achères et les idoles. Seigneur, cela ne m'arrivera pas. Quand tous seraient scandalisés en toi, moi, je ne le serai pas. S'il me fallait aller en prison ou à la mort, je ne te renierai pas. Tiens, celui qui avait dit cette parole, ce n'était pas n'importe qui. C'était un disciple qui était particulièrement privilégié. Le Seigneur lui avait donné un nom, une pierre. Il lui avait donné les clés du royaume des cieux. Il avait emmené avec lui dans les résurrections, Jaïrus, à la transfiguration, à Gethsémané après, plus tard. Ah, il reprend le Seigneur. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et quant à moi, loin de moi de faire ce que tu me dis là. Ah, eh bien, si nous avons encore tant d'exemples, qui nous saisissent. et qui nous disent, voilà de quoi je suis capable. Seigneur, protège-moi. Seigneur, garde mon âme. Unis mon cœur à la crainte de ton nom. Psaume 80. Unis mon cœur à la crainte de ton nom, afin que je ne pèche pas contre toi. Pierre n'était pas tout jeune. Mais Joas non plus. Joas non plus. Sérieux tout ça. Posons-nous bien des questions. Tenons-nous devant Dieu. Et retenons cette parole du Seigneur et de Jacques. La parole ne parle pas en vain. Et tout livre des Proverbes est là pour nous le confirmer. Nous continuons notre lecture en 2 Rois 24. Verset 23. Il arriva quand l'année fut révolue que l'armée de Syrie monta contre Joas, entra en Juda et en Jérusalem. Ils détruisirent entre le peuple qui ? Tous les chefs du peuple et envoyèrent toutes leurs dépouilles au roi à Damas. Tiens, ils détruisirent, on a bien lu ? Ils détruisirent d'entre le peuple tous les chefs du peuple et envoyèrent toutes leurs dépouilles au roi à Damas. Eh bien, ce sont bien sûr les mêmes que ceux qui sont venus voir Joas s'incliner devant lui et qui l'ont fortement incité à abandonner la maison de l'Éternel et adorer les Achères et les idoles. Et qu'avait dit Zacharie ? Que l'Éternel regarde et redemande. Eh bien, voilà les premiers responsables, les conseillers à mal faire, même si cela est dit de Jézabel, conseillère à mal faire, qui sont les premiers atteints. Nous sommes dans l'Ancien Testament, nous sommes sous la loi. Zacharie dit que l'Éternel regarde et redemande. Sous la grâce, Étienne, reflétant les caractères de celui qu'il contemplait dans le ciel, demande au contraire, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Mais là, nous sommes sous la loi, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et le mal est trop grave. Et Dieu doit maintenir sa sainteté et sa dignité. Que l'Éternel regarde et redemande. Et les premiers sont atteints, punis. Ce sont justement les chefs du peuple. Verset 24. L'armée de Syrie vint avec un petit nombre. Et l'Éternel livra en leurs mains une très grande armée parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Nous lisons, mais le temps passe, en 2 Rois 12 encore. 2 Rois 12, au verset 17. Alors Hazaël, roi de Syrie, monta et fit la guerre contre Gat et la prit. Verset 18 de 2 Rois 12, Joas, roi de Juda, prit toutes les choses saintes que Josaphat et Joram et Akazia, ses pères, rois de Juda, avaient consacrées, et celles qu'il avait lui-même consacrées, et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et la maison du roi, il les envoya à Hazaël, roi de Syrie. Donc nous avons bien vu que non seulement la maison avait été restaurée et consolidée, mais ils avaient fait beaucoup d'ustensiles. Et voilà quelques années après. Tous ces ustensiles, Joas les reprend et les envoie à Hazaël. Et nous remarquons la perfidie d'Hazaël. En 2 Rois 12, il se retire de Jérusalem après avoir reçu un tribut énorme. En 2 Chroniques 24, eh bien, il rentre quand même à Jérusalem et il détruit beaucoup de choses à Jérusalem. Et remarquons le verset 24, il était venu avec une toute petite armée, alors que l'armée de Joas était très grande, et l'Éternel a livré Joas et son armée dans la main d'Hazaël. 2 Chroniques 24, 25, quand ils l'eurent quitté, Joas, or il l'avait laissé dans de grandes maladies. En plus, voilà qu'une grande maladie sérieuse tombe en jugement sur Joas. Ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils de Joïada, le sacrificateur. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. Verset 21, ils conspirèrent contre lui. Qui ? Zacharie. Verset 26, ils conspirèrent contre Joas, ils le tuèrent sur son lit et il mourut. Et on l'enterra dans la ville de David, et remarquez la restriction, on ne l'enterra pas dans les sépulcres des rois. Quelle sentence, quelle fin, quelle triste fin, Joas. Combien nous pouvons profondément déshonorer Dieu alors que dans la blanche vieillesse, nous devrions porter du fruit à sa gloire. Lot, qui a fini comme un ours dans une grotte. Quelle triste chose, alors qu'il était assis à la porte de Sodome, mais c'est autre chose. Et puis ils sont donnés les noms de ceux qui l'ont tué, un Moabite et un Ammonite, et Amadé à son fils régna à sa place. C'est triste, c'est sérieux, oui, 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 oui. Parce que tout ce qui concerne l'homme est triste. Et quand on lit tous ces récits de l'Ancien Testament, on comprend cette parole d'Ésaïe. Finissons-en avec l'homme dont le souffle est dans les narines. Quel qu'affrait-on de lui ? Mais Dieu est fidèle, Dieu maintient sa promesse et Dieu rétablira. Et il a bien restauré Manassé.
Simplement la lecture de trois versets. Suite à la méditation de cet après-midi, tout d'abord dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. « Or, toutes ces choses leur arrivèrent comme type, et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement, à nous que les fins des siècles ont atteint. La vie de Joas est écrite aussi pour nous servir d'avertissement. » Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, au premier verset, « C'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne nous écartions. » Et la note dit « de peur que nous glissions loin ». Il est dit ailleurs que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Nous sommes en danger de glisser, en danger d'écouter d'autres voix et de fermer l'oreille finalement à cette voix de Dieu, cette voix de la parole. Un dernier verset dans le psaume 119. Psaume 119, verset 9. « Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voix ? Ce sera en y prenant garde selon ta parole. » Et verset 11. « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pèche pas contre toi. » Que cette grâce nous soit accordée de cacher la parole de notre Dieu. Il est dit, la note dit « J'ai caché ta parole ». Ce que tu as dit, ce que Dieu nous dit par sa parole, que nous puissions le recevoir, le garder, le cacher. Et comme il est dit dans l'épître de Jacques, ne pas écouter la parole seulement, mais la mettre en pratique, la vivre.